Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, Lion d'argent à la Mostra de Venise, Foxtrot de Samuel Maoz, dont nous entendons en ce moment la musique, a représenté Israël aux Oscars et a été sacré meilleur film étranger par le National Board of Review. Une pluie de récompenses à laquelle la très controversée ministre israélienne de la Culture n'est sans doute pas étrangère, car en septembre dernier, Miri Regev avait affirmé avoir honte que l'Académie israélienne ait loué les mérites d'une œuvre qui, selon elle, salit l'image de l'armée de son pays. Ce dimanche, Orient Hebdo se penche sur ce cinéma israélien, sur ce qu'il dit de la société israélienne et sur les nuages noirs qui s'amoncellent sur son financement en raison d'un durcissement des mesures prises par l'État et aussi des attaques récurrentes que certains politiques portent contre lui. Bonjour Ariel Schwarzer.
Bonjour.
Historien de cinéma, vous êtes critique notamment au Cahier du cinéma et vous enseignez à la fois à Paris 8 et à l'Université de Tel Aviv. Vous avez donc un regard visé sur le cinéma israélien. Au moment où sort un film dérangeant comme Foxtrot sur les écrans, comment jugez-vous l'état de santé de ce cinéma israélien aujourd'hui?
Le cinéma israélien est dans une situation de crise. Après quasiment une quinzaine d'années d'essor sans précédent, où le cinéma israélien non seulement est arrivé au devant de la scène du cinéma international, mais il était montré dans les meilleurs festivals du monde, primé par les prix les plus prestigieux, mais aussi le cinéma israélien a su gagner la confiance du public israélien, parce que à 6 reprises, le cinéma israélien a attiré annuellement plus qu'un million de spectateurs en Israël même, après 2 décennies très maigres sur ces points. Donc c'est un succès double, à la fois sur les plans internationaux, mais aussi sur les plans nationaux. Le cinéma israélien est devenu une sorte de conscience morale de la société israélienne. Les films sont discutés par la société civile. Il y a des événements médiatiques extrêmement importants, dont les dernières en date est Foxtrot, qui sont mis au devant du discours médiatique. Mais tout ça est actuellement dans une situation de, je dirais, sinon une crise, au moins une remise en question. Parce que pendant des années, le cinéma israélien était assez discret. C'est-à-dire que les films israéliens sortaient que très rarement des frontières israéliennes. Mais une fois que le cinéma israélien est devenu un objet de curiosité mondiale, les politiciens ont commencé à s'y intéresser. D'abord, c'était la création en 2001 d'une nouvelle loi du cinéma qui a complètement modifié et en profondeur l'industrie du cinéma israélien. D'abord en triplant le budget alloué aux films israéliens, mais aussi en réorganisant l'industrie à travers 5 principaux fonds de soutien public au cinéma. Et je pense qu'on doit beaucoup dans le succès du cinéma israélien depuis le début des années 2000 à cette nouvelle infrastructure mise en place grâce à la loi du cinéma de 2001. Mais Israël est devenu depuis quelques années un pays de plus en plus fermé, enfermé sur lui-même, nationaliste, même théocratique. Et les films israéliens commencent à déranger. Ils commencent à déranger les pouvoirs publics. Et ils sont perçus par la ministre de la Culture israélienne, Miri Regev, élue à son poste en 2005, comme une sorte d'ennemi de l'intérieur, comme une sorte de 5e colonne. Pourquoi? Parce que le cinéma israélien est marqué, caractérisé par la liberté des tons, par la liberté de son discours politique. C'est un cinéma qui essaye de véhiculer une vision du monde parfois assez sombre de la société israélienne contemporaine, dans la réalité politique. Et les pouvoirs politiques souhaitent aujourd'hui promouvoir un cinéma plus ou moins officiel, pas dérangeant, un cinéma qui s'occupera des questions liées à la diversité culturelle en Israël, différentes communautés ethniques et religieuses qui compose la réalité israélienne, en véhiculant une vision du monde plus ou moins harmonieuse de la société israélienne. et en évitant, comme je viens de le dire, de traiter des sujets qui fâchent ou des sujets qui peuvent déranger et qui sortent, disons, d'un certain consensus national.
Justement, quels sont les sujets qui étaient abordés ces 15 dernières années par ce nouveau cinéma israélien que vous avez largement commenté dans un livre que vous avez publié en 2013? C'était un essai qui s'appelait justement « Le nouveau cinéma israélien ». Les sujets qui ont fait finalement le succès du film israélien et qui aujourd'hui lui valent peut-être le fait d'être pris en grippe par la société politique.
Le cinéma israélien n'a jamais été monolithique. On ne peut pas parler d'un thème dominant. Je pense que sa richesse, depuis le début des années 2000, c'était sa diversité. C'est un cinéma qui traitait aussi bien des sujets sociaux que des thèmes existentiels liés à l'amour, à la sexualité, mais aussi des films frontalement politiques. Quelques-uns des grands succès du cinéma israélien ces 15 dernières années étaient des films frontalement politiques.
Il se met à danser. Il veut danser une valse entre les balles, avec les portraits géants de Bachir autour de lui.
Je peux parler, par exemple, de Valse avec Bachir, de Harry Fullman, qui véhiculait une vision critique de la manière dont la guerre du Liban a été menée par le gouvernement israélien. On peut en fait parler de toute une trilogie autour de la guerre du Liban, Beaufort, le film de Joseph Sedar, Valse avec Bachir de Harry Fullman et Le Bannon de Samuel Maoz, une trilogie pour une part autobiographique puisque le cinéaste eux-mêmes était soldat durant la première guerre du Liban et il traite cette guerre dans une perspective à la fois politique mais aussi post-traumatique. Mais des films aussi qui traitaient de la situation dans les territoires occupés. Je peux parler d'un film co-réalisé par un Palestinien et un Israélien, Yaron Shani et Skandar Kopti, le film Ajami, qui se passe entre les quartiers de Ajami à Jaffa et les territoires occupés, un film extraordinaire qui a été sélectionné au festival de Cannes lui aussi, et puis une vaste création documentaire qui elle aussi est marquée par l'importance accordée au sujet politique. Je peux parler d'un cinéaste comme Avi Mugrabi, qui est un cinéaste à la fois audacieux sur les plans esthétiques, parce qu'il renouvelle le genre documentaire d'un film à l'autre, mais aussi dans sa vision politique. Donc Avi Mugrabi, qui dans ses derniers films, par exemple, rejette l'idée de deux États pour deux peuples et commence à véhiculer l'idée d'un État binational, mais véritablement démocratique, dans un film comme Dans un jardin, je suis entré. Et puis, un film comme The Gatekeeper, où cinq responsables de services de la sécurité intérieure israélienne témoignent de leurs expériences dans les territoires occupés et appellent à la fin de l'occupation. C'est un film de Dron Moré qui a été diffusé aussi sous forme d'une série de télévision. Donc le cinéma israélien était extrêmement divers, c'était pas uniquement un cinéma politique, mais l'un des aspects importants de ce film, c'était effectivement aborder des thèmes politiques dans une perspective à la fois complexe et souvent critique. Et c'est pour cette raison que j'insiste encore une fois, le cinéma israélien est devenu, ces deux dernières décennies, une forme de conscience morale de la société israélienne. Comme ces films ont un écho très important, à la fois en Israël et aussi à l'étranger, ce cinéma a commencé à déranger. Le gouvernement actuel a décidé donc de freiner le développement de ces genres de cinéma.
Alors justement, il freine le gouvernement actuel. Sous quelle forme? Est-ce qu'il diminue les subventions? Est-ce qu'il ferme des organismes qui sont chargés d'aider? Ou alors est-ce qu'ils font le tri entre les réalisateurs?
En fait, ce qui se passe, c'est que le fonctionnement des fonds de soutien public au cinéma israélien sont remis en question actuellement. Ces fonds de soutien public ont œuvré depuis les débuts des années 1000 au développement du cinéma israélien en appliquant la nouvelle loi du cinéma. Ils sont en grande partie responsables de l'essor actuel du cinéma israélien. Mais selon les responsables politiques, ces fonds aujourd'hui sont devenus une sorte de clan fermé où sont acceptés que les scénarios et les projets de cinéastes appartenant à la gauche israélienne. Donc la décision a été pris de nommer une commission d'enquête sur le fonctionnement des fonds d'étudiants. Et la commission vient de donner ses conclusions. Et les conclusions vont dans un sens de renforcement des contrôles politiques des fonds de soutien. C'est-à-dire que le gouvernement va continuer à soutenir financièrement le cinéma israélien, mais il va contrôler lui-même les thèmes traités et les cinéastes choisis par les fonds de soutien pour réaliser ces projets.
C'est donc de la censure directe.
C'est une forme de censure qui ne dit pas son nom. Par exemple, l'une des décisions qui vont être prises à la suite des conclusions de cette commission, c'est que les lecteurs des scénarios qui sont soumis aux fonds de soutien seront nommés non pas par le directeur des fonds, mais par l'État lui-même. Donc c'est une manière pour l'État d'introduire au sein des fonds des hommes proches du pouvoir qui vont assurer que certains sujets ne seront pas traités en essayant de promouvoir d'autres thèmes et d'autres cinéastes dont les projets vont dans le sens voulu par le gouvernement.
Est-ce parce que les sujets que l'on ne veut pas voir arriver et être financés sont dérangeants pour la population israélienne ou pour le gouvernement actuel?
La ministre de la Culture, Miri Regev, proclame que les cinéastes israéliens peuvent réaliser tous les films qu'ils veulent, sur tous les sujets qu'ils veulent, mais pas avec l'argent public. Quand il s'agit de l'argent public ne doit pas servir, selon elle, de donner une mauvaise image d'Israël ou de son armée à l'étranger. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, elle comprend absolument pas son rôle et le rôle de la culture et du cinéma dans une société démocratique. Le cinéma ne doit pas servir comme une porte-parole officielle du gouvernement et de sa politique, mais il doit véhiculer une vision complexe d'une société qui passe souvent par la critique du politique du gouvernement israélien. La force du cinéma israélien ces 20 dernières années, c'était le fait que c'était un cinéma inquiète. Je vois absolument pas les cinéastes israéliens comme des traîtres. Au contraire, je trouve qu'ils sont aussi patriotiques que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël. Et ils critiquent par attachement, ils critiquent par une volonté de défendre certaines valeurs et l'idée d'Israël comme une démocratie libérale. Mais ces valeurs vont aujourd'hui à l'encontre de la voie que la société israélienne est en train de prendre, qui devient de plus en plus une société fermée, nationaliste et malheureusement théocratique aussi.
Est-ce que avec la nouvelle configuration de financement des films que voudrait la ministre de la Culture, Foxtrot pourrait être tourné aujourd'hui?
Je doute. Je doute qu'un film comme Foxtrot pourrait être tourné. D'ailleurs, il y a déjà une diminution notable de films politiques en Israël parce qu'il y a un certain climat qui règne en Israël qui pousse, à mon avis, les cinéastes et même à l'autocensure. C'est-à-dire des cinéastes qui savent que certains sujets risquent de déranger les directeurs des commissions, ils arrondissent les ongles. Ils évitent de parler de certains sujets parce que ils ont le désir de faire un film avec les fonds publics. En fait, Foxtrot, c'est l'un des derniers films israéliens de fiction parce que dans les documentaires, on a encore plus de films qui traitent de sujets politiques, mais à mon avis, même dans les documentaires, l'évolution d'un cinéma politique est menacée. Mais dans le domaine de la fiction, Foxtrot est l'un des derniers films israéliens qui traite d'un sujet politique qui se passe en partie dans les territoires occupés et qui donne une image peu flatteuse de la manière dont l'armée israélienne enterre des crimes commis par erreur ou pas par des soldats israéliens.
Mar Feldman. Jonathan Feldman nehrag halayla ba'et miloui tafkido.
Mais ce genre de film très particulier, très critique, vous venez de le dire, de Tsahal, de l'armée israélienne, trouve malgré tout un écho dans les salles de cinéma israéliennes. Les spectateurs israéliens sont favorables à ce genre de film?
De moins en moins, parce qu'il y a une certaine fatigue de la politique qui est tellement présent dans les médias que les spectateurs, dans leur grande majorité, préfère aller au cinéma pour se divertir. Néanmoins, un film comme Fox Trot est très un succès. Il a fait plus que 100 000 entrées, principalement parce que le film est devenu un événement médiatique sans précédent à cause des attaques subies par le réalisateur de la part de Miri Regev, la ministre de la Culture, qui a même proclamé qu'elle espère qu'un tel film ne représentera pas Israël dans les Oscars et que s'il est élu parmi les films nominés aux Oscars du meilleur film étranger, qu'il ne gagne pas. Je pense que c'est sans précédent qu'un ministre de la Culture souhaite que les films qui représentent son propre pays ne gagnent pas l'Oscar ou un prix prestigieux sur le plan international.
Est-ce que vous êtes pessimiste pour la suite de ce qui va se passer pour le cinéma israélien?
Je suis assez pessimiste parce que le cinéma n'est pas coupé de ce qui se passe au sein de la société dans laquelle il se développe. Et je suis très inquiète pour la société israélienne. Je suis très inquiète parce que Israël s'éloigne aujourd'hui de plus en plus de ses valeurs de base humanistes, démocratiques, libérales, et s'enferme dans une vision du monde que je peux absolument pas partager. Par exemple, il y a aussi l'idée de renforcer les caractères juifs de l'État d'Israël au mépris parfois des valeurs universelles et des valeurs démocratiques. Et c'est une idée assumée par les partis politiques au pouvoir. Malheureusement, Israël, c'est un pays qui préfère soutenir un leader fort comme Netanyahou, quitte à oublier qu'il est mêlé dans de grandes affaires de corruption. C'est un pays qui devient de plus en plus religieux. La non-séparation entre l'État et la religion pèse de plus en plus sur les citoyens laïcs d'Israël. Et malheureusement, le cinéma n'est pas coupé de la société israélienne et il subit de plein fouet les conséquences de cette évolution. Donc, je suis pas de tout optimiste. Je pense que le cinéma israélien arrive à la fin d'une époque, une époque où il était encore capable de faire des films libres sur le plan politique avec le soutien public de l'État. C'était la situation depuis la loi du cinéma en 2001 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement ne rejette pas l'idée que l'État doit soutenir le cinéma, mais il veut soutenir un certain cinéma, c'est-à-dire un cinéma plus ou moins mainstream, plus ou moins folklorique, plus ou moins officiel. Mais ce qui pourrait arriver, à mon avis, et ça c'est une évolution assez intéressante, et on voit déjà les prémices de cet développement dans le cinéma israélien, c'est que le cinéma israélien va être divisé en deux. D'un côté, une production officielle soutenue par l'argent public, une production apolitique, mainstream, traitant des sujets de société ou abordant la question de la pluriculturalité de la société israélienne. Et de l'autre côté, un cinéma indépendant, tourné avec l'argent privé. Donc on voit déjà en Israël l'évolution d'une certaine partie de la cinématographie israélienne vers une production guérilla en coupant les liens avec l'État et avec les financements publics, quitte à tourner des films avec de très petits budgets. Mais à mon avis, les films les plus passionnants vont se faire les prochaines années par cette voie-là.
Merci Ariel Schweitzer. Je rappelle que vous êtes historien, critique de cinéma, et outre le nouveau cinéma israélien publié en 2013, nous l'avons dit, on peut citer également Cinéma israélien de la modernité, c'est plus ancien, en 1997, un livre qui fait référence.
Merci.
Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani, que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, le journal.